Bonsoir à tous, merci d'être nombreux pour cette dernière séquence de cette première journée. Cette conversation va être l'occasion pour Claude Lefort, à travers les questions et le canevas que nous avons choisi ensemble, de reprendre un certain nombre de grands trajets de son œuvre, mais aussi de développer un certain nombre de points qui sont des thèmes sur lesquels il a réfléchi plus récemment. Je crois que présenter Claude Lefort, c'est présenter un ensemble de singularités. C'est une pensée et une forme de rapport à la société qui est marquée, me semble-t-il, par un certain nombre de singularités et de particularités. D'abord, le travail de Claude Lefort doit être considéré comme celui d'un philosophe impliqué. Il n'a jamais pensé que le travail de la philosophie, pour dire les choses vulgairement, soit simplement un travail en chambre. Il a toujours pensé que le travail du philosophe, au contraire, était un travail ensemble, un travail qui devait toujours être tissé avec l'interprétation, la confrontation à l'événement, et que le travail du philosophe politique, il devait aussi être attentif à lire tous ceux dont l'œuvre est inséparable de l'analyse du présent. Car si Claude Lefort s'est tourné vers Machiavel, si Claude Lefort s'est tourné vers un certain nombre de penseurs de la Révolution américaine ou de la Révolution française, si Claude Lefort s'est tourné vers un grand auteur de la période des guerres de religion, la Boétie, s'il s'est tourné plus récemment vers des grands auteurs libéraux du XIXe siècle, c'est parce que ces auteurs-là ont nourri leur philosophie de l'interprétation des problèmes politiques et des problèmes sociaux et des problèmes religieux auxquels ils étaient confrontés. Donc Claude Lefort, c'est d'abord, me semble-t-il, une pensée indissociablement impliquée et liée à l'événement. La pensée de Claude Lefort, c'est aussi une réflexion élargie sur l'émancipation, surtout pour beaucoup de philosophes de sa génération. La critique du capitalisme était en quelque sorte le seul horizon qui organisait la vision du monde. Claude Lefort, qui s'est longtemps reconnu dans la critique marxiste, bien que se reconnaissant dans la critique marxiste, a toujours pensé que l'émancipation ne devait pas simplement se limiter à la critique du capitalisme, à la critique de l'exploitation, mais qu'il y avait une réflexion sur l'institution des individus, sur la constitution de leur dignité, sur les figures d'établissement du collectif qui devait être aussi pensé de façon autonome. Une troisième caractéristique, me semble-t-il, de la pensée de Claude Lefort, c'est que c'est une pensée qui était forgée, si je puis dire, à l'épreuve des gouffres et à l'épreuve des lâchetés. À l'épreuve des gouffres, car une grande partie de son œuvre, une grande partie de son travail a été consacrée à penser la question de la démocratie à partir de son envers, à partir de sa négation, à partir de sa négation absolue, pourrait-on dire, la forme du totalitarisme. Mais sa pensée s'est également nourrie d'une critique impitoyable des lâchetés, des faiblesses de la pensée. Et en même temps qu'il n'a cessé de se considérer comme appartenant et à la gauche dans notre pays, il n'a cessé en même temps d'être le critique impitoyable de ces figures simplificatrices et des renoncements implicites dont elle s'est souvent nourrie. Je crois aussi que le travail de Claude Lefort se caractérise par, je dirais, le type de position, j'emploierais le mot posture s'il n'était pas ambigu, que représente son travail. Il est celui d'une pensée lucide qui ne devient jamais désenchantée, une pensée radicalement lucide qui ne devient jamais liée à une forme non plus, bien sûr, d'engagement aveugle. Et que chez lui, le fil de l'exigence a toujours noué d'une certaine façon ces deux impératifs, pourrait-on dire, de résister à la facilité, mais en même temps de toujours imaginer et donner une place à l'imagination. Son travail, en même temps, et finalement, me semble-t-il, en tout cas C'est la façon dont je n'ai cessé de le lire et de me nourrir de son travail. C'est aussi une écriture, un style et une méthode. Un des livres que Claude Lefort a publié dans les années 1990, qui est un recueil de textes, s'appelle « Écrire à l'épreuve de l'histoire ». Et dans les différents textes qui composent ce livre, comme dans la préface qui l'ouvre, Claude Lefort a insisté sur la proximité entre le travail de l'écrivain et le travail du philosophe. Le travail de l'écrivain et du travail de philosophe, à ses yeux, se retrouvant dans le fait que l'écriture, dit-il, ne doit pas se laisser engloutir dans l'océan des opinions, ni aveugler par le choc des événements. L'écriture, elle est donc inséparable d'un rapport à la compréhension de la réalité qui laisse toujours de côté ce qui pourrait se dégrader en une forme de doctrine simplificatrice, en une forme d'idéologie, toujours ouvert à ce qui apparaît comme une interrogation, ce qui apparaît comme un problème, ce qui apparaît comme la prise en compte d'une singularité et non pas l'ensevelissement sur une généralité, dans une généralité trop hâtive et trop réductrice. C'est aussi, enfin, une position du philosophe par rapport à ses lecteurs et par rapport à son œuvre. Et je voudrais terminer cette brève présentation parce que je voudrais sans tarder commencer notre discussion en citant un élément, quelques phrases de cette préface à son ouvrage « Écrire à l'épreuve du politique ». Le philosophe politique, écrit Claude Lefort, ne veut pas fournir des arguments à des hommes qu'il tient pour des adversaires, des imbéciles ou les dévots d'une doctrine, ni en séduire d'autres, empressés à se saisir de telle ou telle de ses formules et sans l'entendre, à se faire ses partisans, à les lire comme le héros d'une cause. Écrire, c'est donc pour lui, tout particulièrement, continue Claude Lefort, l'épreuve d'un risque. Et celle-ci lui donne la ressource d'une parole singulière, mobilisée par l'exigence de dénouer et de déjouer les pièges de la croyance ou de se soustraire aux prises de l'idéologie, de se porter en un mot toujours au-delà du lieu où on l'attend. Je crois que dans cette différence, dans cette prudence par rapport à ses lecteurs critiques ou à ses lecteurs enthousiastes, il y a la bonne définition de ce qu'est, je dirais, un exercice vrai de la pensée. Et sans plus tarder, je remercie donc Claude Lefort d'avoir accepté l'invitation que le forum lui a faite. Et nous allons donc commencer notre conversation par une réflexion sur les origines de la démocratie. Toute une partie du travail de Claude Lefort a été consacrée à penser, je dirais, la nature de la démocratie. Mais cette réflexion sur la nature de la démocratie a été indissociable chez lui d'un travail sur l'histoire de la démocratie, sur les origines, on pourrait dire, les expériences fondatrices de la démocratie. Et il y a trois types d'expériences, des expériences positives et des expériences négatives. Il y a trois types d'expériences qui, me semble-t-il, ont particulièrement retenu son attention. Un premier type d'expérience qu'il a d'ailleurs plutôt exploré récemment, notamment dans un article qui était publié dans la revue Esprit en 2002, je crois, de réfléchir sur ce qu'a été l'invention ou l'avènement de la ville moderne. Et ce n'est pas par hasard qu'il a fait une grande partie de son travail sur Machiavel, car l'œuvre de Machiavel est indissociable d'une réflexion sur la vie à Florence, les problèmes de l'organisation de la cité à Florence, de la même façon que l'œuvre de Rousseau est indissociable d'une réflexion sur Genève ou celle de Spinoza d'un travail sur la vérité d'Amsterdam. Et dans un deuxième temps, nous verrons un autre type d'expérience qui a été fondamental pour Claude Lefort, c'est les travaux et les expériences liées aux révolutions françaises et américaines. Et enfin, dans un troisième temps, c'est peut-être ce qu'il y a de plus connu dans son œuvre, la prise en compte, je dirais, des expériences négatives, des expériences destructrices, celles-ci ayant pour nom les formes du totalitarisme. Mais je crois que nous pourrions, si je puis dire, dans l'ordre chronologique, commencer par examiner avec vous ce premier point, c'est cette façon dont vous comprenez, je dirais, l'expérience des premières cités, notamment de celles que vous connaissez le mieux, les cités européennes et les cités italiennes, disons tout simplement, comme étant des expériences constitutives de l'être ensemble, et donc des formes, en quelque sorte, je dirais, préparatoires à la formation de la notion même de communauté politique démocratique.
Je vous remercie d'abord de cette présentation très généreuse, trop généreuse, qui m'intimide, et j'espère que notre dialogue sera fécond. C'est un fait que depuis peu, je me suis interrogé sur les origines de la démocratie. Et nous savons tous que pour Tocqueville, à l'origine de la démocratie, il y a l'égalité des conditions. Nous savons tous que, disons, le suffrage universel, la souveraineté du peuple sont des principes, la séparation des pouvoirs, des principes constitutifs de la démocratie. Mais la question, depuis un certain temps, m'habitait. Comment cette égalité des conditions, d'où sort-elle? Comment est-elle née? En somme, Tocqueville fait preuve d'un sens sociologique en ne s'arrêtant pas à la définition de la démocratie comme un régime, puisqu'il va d'emblée à la notion sociale de l'égalité des conditions. Mais en fait, je pense que cette égalité n'a pu se produire que dans un milieu, et qu'il fallait revenir, nous l'avons dit l'un et l'autre, la démocratie, ce n'est pas seulement un régime politique, c'est une forme de société. Comment l'égalité des conditions trouve-t-elle son origine dans un certain type de société? Et bien que j'aurais pu y penser beaucoup plus tôt, puisqu'après tout, je suis né à Paris, et que j'ai passé ma vie entière à Paris, et que je suis donc un enfant de la ville. Mais le fait est que c'est, je crois, dans la ville européenne que se sont dessinés de nouveaux rapports qui tranchaient absolument, tant bien sûr avec, disons, la République romaine ou athénienne, bon, mais qui tranchaient d'abord avec ce système de hiérarchie, cette distinction des grands et du peuple qui était celle, disons, de la société féodale. Or, précisément, je trouve dans l'œuvre de Marc Bloch, qu'on célébrera bientôt parce que c'est un anniversaire, Marc Bloch est, je crois, l'un des plus grands, on ne peut pas dire le plus grand historien de notre temps, et qui est à la fois historien, sociologue, philosophe, enfin, historien dans le vrai grand sens du terme. Marc Bloch, dans son grand livre sur la société féodale, dit que la ville représente une rupture radicale avec le système hiérarchique de l'époque. La ville ira-t-il jusqu'à dire c'est l'endroit où
qui rend libre.
Qui rend libre. Voilà. Qui rend libre. Et en fait, il analyse le développement des communes, l'instauration d'un gouvernement des communes, et déjà il met en évidence ce qui est caractéristique. Par exemple, le serment des communes, c'est le serment de l'égalité. Mais il met en évidence ce qui distingue déjà radicalement cet être ensemble qu'est la ville. Et effectivement, la ville, c'est, on le verra à travers quelques grands exemples, vous les mentionniez au passage, c'est Anvers, c'est Amsterdam, à des époques différentes, c'est Florence, c'est Genève, ce sont des lieux qui deviendront à des époques différentes, on peut dire des métropoles mondiales, qui seront en particulier des lieux d'immigration considérables, des capitales du commerce. Mais qu'est-ce que c'est que ces lieux, ces milieux? C'est précisément des milieux où ne règne pas du tout l'égalité, mais où chacun est au contact de chacun. Le Goff a une expression dans l'un de ses livres pour dire, une expression amusante, il dit c'est là où le curé rencontre croise la prostituée, où le marchand croise, peu importe. Et donc c'est ce mélange, cette intrication, plutôt, comme le dit Tocqueville, l'égalité des conditions, c'est cette intrication des conditions qui est vraiment caractéristique de la ville moderne et qui connaît, encore une fois, un essor à différentes périodes dans ces grandes cités que celles d'Amsterdam qui, à un moment donné, qui ont vraiment une sorte de vocation internationale, de vocation mondiale, telle que Amsterdam, qui a connu Spinoza, et ça n'est pas pour rien que Spinoza est l'un des penseurs, les premiers penseurs de la démocratie. Et puis c'est Florence à laquelle j'ai eu l'occasion de m'intéresser fort longuement à la découverte, il y a longtemps de cela, à la découverte de l'œuvre qui, au début, me déconcertait, me paraissait étrange, contradictoire, l'œuvre de Machiavel. Et Machiavel, c'est, il faut le dire au passage, Machiavel, c'est quelqu'un qui a été, d'abord, qui a été un acteur éminent à Florence, sans jamais avoir de titre autre que celui de secrétaire de la chancellerie, alors qu'en fait, il a été un véritable ambassadeur, qu'il a été plusieurs fois en France, que, d'autre part, il a pris des décisions, il a conseillé le gonfalonier sur des points essentiels au moment où il y avait de graves tensions dans Florence. Or, Machiavel, c'est l'homme en même temps, c'est l'auteur, le penseur, je veux dire, le penseur de la division sociale. C'est-à-dire que c'est celui qui, avec le plus de clarté, le premier, a eu l'idée du peuple comme à la fois ce qu'on appelait disons, comme le peuple, en tant qu'identité nationale, pour ainsi dire, n'est-ce pas, mais l'idée de la distinction entre les peuples, entre le peuple et les grands, et non seulement l'idée de cette distinction, il n'inventait pas, mais l'idée que, finalement, la grande politique, d'ailleurs celle aussi du prince, elle était fondamentalement dépendante de l'activité du peuple. C'est là où le peuple est libre, c'est là où le peuple est vivant, qu'il fait pression sur le pouvoir, et essentiellement le pouvoir dépend du peuple. Et quand le pouvoir ne dépend pas du peuple, eh bien nous sommes à ce moment-là dans la tyrannie. Mais ces deux livres, l'un sur Descartes de titre livre et l'autre sur le prince, sont mus par le même ressort. Si le prince veut s'affirmer et veut, préserver l'État, il faut qu'il s'appuie sur le peuple et non pas sur les grands. Et quant à la République, elle est essentiellement ce régime qui accepte la division sociale, et c'est là où je reviens à la ville, c'est que Florence que dont j'ai étudié l'histoire en partant de Machiavel, Florence est une ville extraordinaire qui, au départ, ne s'est pas enfermée comme Venise dans une espèce d'oligarchie, les grands devenant, si vous voulez, les grandes familles qui se partagent le conseil une fois pour toutes. Florence a été le milieu où s'est développé un conflit et où, en outre, il y a eu une immigration considérable de ces hommes qu'on appelait les novissives, les nouveaux citoyens. Nouveaux citoyens qui, donc, par leur conditions, par leur ouverture, etc., créaient un nouveau style de rapport à l'intérieur de la société florentine. On tient là un des grands foyers, il faut encore une fois se souvenir de l'importance du capitalisme florentin, de l'essor extraordinaire du commerce, d'une ville qui a un rayonnement européen, et c'est là que se voit au mieux ce que je n'appellerais pas la démocratie. Machiavel, on ne peut pas le qualifier de démocrate, et pas davantage ne peut-on dire que Florence est une première cité démocratique, mais c'est cette cité où la hiérarchie n'existe, pas. Cette société, encore une fois, où il y a un mélange des conditions et qui devient par là, d'une fécondité sur tous les plans, intellectuels comme sur le plan, comme aussi bien socialement, etc. Florence, c'est vraiment bon.
Est-ce que vous diriez que c'était une société multiculturelle alors ?
Une société
pour parler le langage aujourd'hui.
Pour parler le langage aujourd'hui, oui, c'est une société multiculturelle
et capitaliste.
Et capitaliste, en effet, c'est une des premières vraiment cités capitalistes. Et encore une fois, c'est un foyer d'attraction, ce qui est rarement le cas. C'était un lieu très fort d'immigration où il y a ces nouveaux citoyens et où, en dépit de la différence, encore une fois, il y a des patriciens très riches, en dépit de cette différence, où il y a une expérience sociale d'un type nouveau. C'est pour ça que la ville m'intéresse. Et on pourrait en dire autant, je ne veux pas m'étendre, mais on pourrait en dire autant d'Amsterdam. Amsterdam, où a vécu pendant 20 ans Descartes, ça a été pour lui une ville qui est la ville de Spinoza, comme je disais, on peut dire le premier penseur démocratique. Et pourquoi, là encore, pourquoi ? Parce que Amsterdam, alors peut-être plus que Florence, à une époque, a été la grande citadelle, le grand foyer, je veux dire, le grand foyer du commerce mondial. Donc la ville nous permet l'univers de la ville, son image nous permet de nous détacher de cette interrogation classiquement liée à quand est née la souveraineté du peuple, n'est-ce pas l'égalité qui, en réalité, on va là à la racine.
Ce que vous voulez dire d'une certaine façon, c'est que à l'origine de la démocratie n'est pas simplement dans la formation d'un type de régime inédit, opposé aux monarchies ou aux autocraties anciennes, que la naissance de la monarchie, c'est d'abord l'émergence d'un certain type de société.
Exactement.
C'est ça votre thèse.
Exactement.
Alors, cette thèse, je l'entends très bien parce qu'elle s'applique parfaitement aux exemples que vous prenez. Ces exemples de ces villes commerçantes, multiculturelles, disons pour employer l'expression d'aujourd'hui, que ce soit dans l'Italie du 15e siècle ou jusqu'à l'Europe du Nord au 17e siècle. Mais au fond, ces cités qui ont été, je dirais, le ferment de ce qu'on appelait l'humanisme civique.
Exactement.
Les démocraties modernes, elles ne sont pas nées de là, d'un certain point de vue, parce que les révolutions fondatrices des démocraties modernes, ça a plutôt été, peut-on dire, les révolutions françaises ou américaines. Donc, à la fois, c'était un moment très fort d'apprentissage de liberté, de composition, effectivement, de sociétés nouvelles. Mais en même temps, ces expériences n'ont pas accouché, je dirais, des régimes démocratiques modernes. Et est-ce que la question que je me pose est la suivante exactement. C'est que dans la Révolution américaine, comme dans la Révolution française, l'idéal civique, il est très coupé de l'idée multiculturelle. L'idéal civique, au fond, il est très coupé de la vision commerçante. Au contraire, dans le XVIIIe siècle français, l'idéal républicain de la vertu républicaine, elle critique toujours le luxe, c'est-à-dire qu'elle critique l'économie politique. Et au fond, les antifédéralistes américains aussi, ils voient une démocratie moderne fondée, grosso modo, sur un monde de petits artisans et de paysans, et pas du tout sur ce monde moderne. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux voies, si je puis dire, vers la modernité démocratique ? Il y aurait cette voie de l'humanisme civique, qui est, je crois, incontestable, et sur laquelle vous nous instruisez. Et puis de l'autre côté, mais on va y venir tout à l'heure, c'est aussi un de vos thèmes, cette voie, je dirais, des révolutions plus directement politiques.
Oui, c'est très difficile de répondre. Je suis incapable de trancher. Simplement, j'attire quand même votre attention sur le fait que, en ce qui concerne l'Amérique, dont je ne comptais pas parler, mais évidemment la démocratie américaine est un modèle qui appelle beaucoup une réflexion en elle-même. La démocratie américaine, il y a eu auparavant, avant qu'elle soit clairement proclamée, beaucoup de temps s'est écoulé. Et il n'est pas, je crois, exact de dire que ce sont simplement des petits propriétaires qui sont juxtaposés, des propriétaires terriens. Il y a un livre passionnant que vous connaissez, et dont vous allez d'ailleurs me rappeler le titre parce que j'ai des trous de mémoire. Bon, c'est le livre de Bellin.
Oui. Les origines idéologiques de la Révolution américaine.
Les origines idéologiques de la Révolution américaine. Or, cet historien a réuni un nombre considérable de pamphlets, mais par pamphlet, il faut entendre à la fois ce que nous entendons par pamphlet, mais aussi par lettres, par toutes sortes de publications qui ont circulé qui attestent évidemment une vie urbaine. Ce qui ressort de Bellin, c'est avant encore une fois que s'affirme la démocratie, mais c'est une nouvelle circulation Circulation des idées, circulation des individus. Si bien que je ne crois pas qu'on puisse dire, ça c'est sur des décennies que l'Amérique se forme. Et que quand on voit par exemple le rôle des town meetings, hein, ils ont leur ferme, mais ils viennent se rassembler et ils s'affrontent. Et il y a des. Vous voyez, il y a une composante souvent que Tocqueville nous fait oublier. La démocratie, encore une fois, l'égalité des conditions, elle ne sort pas de rien. Là aussi, on peut parler de milieu. Alors, il n'y a pas un milieu qui est la ville, mais il y a ici et là des milieux qui entrent en communication les uns avec les autres. Il y a des assemblées qui en sortent. Enfin, c'est plus compliqué.
Si on veut reprendre cette idée fondamentale que vous développez, donc je dirais des conditions sociales de la démocratie préexistantes à la naissance proprement politique de la démocratie, oui. C'est-à-dire les formes de la souveraineté du peuple.
Oui.
Parce que autant à Florence, on peut dire que le peuple existe comme une force qu'il faut se concilier et que le prince apprend que s'il veut être puissant, il faut aussi qu'il soit conciliant, voire obéissant. Vis-à-vis du peuple, et donc il faut trouver une façon pour les deux puissances de s'apprivoiser, au moins. Alors il y a une interprétation, pourrait-on dire, cynique de cette façon de s'apprivoiser, et il y a une interprétation démocratique. La façon cynique, c'est que apprivoiser le peuple, c'est savoir le manipuler. Et l'interprétation démocratique, c'est de dire que c'est une façon d'obliger à ce que sa pression du peuple, elle soit contraignante pour le pouvoir. Et on peut dire que toute l'histoire de l'interprétation de Machiavel, c'était le rapport entre ces deux.
Oui.
Est-ce que ce rapport du peuple au pouvoir, c'est le pouvoir qui manipule le peuple ou est-ce que c'est le peuple qui contraint le pouvoir? Et donc, dans ces deux éléments, ils sont aussi, on pourrait dire, ceux qui existent toujours dans toute société. Aujourd'hui même, on peut dire que ceux qui nous gouvernent ont besoin, dans la campagne électorale, de se concilier le peuple, mais en même temps, ensuite, après, ils essaient bien d'une manière ou d'une autre de trouver les moyens, sinon de le manipuler, du moins de le cajoler, de le séduire et par des moyens dirigés, de s'attirer ses faveurs.
La grande différence entre la République et le Principat, la grande différence, c'est que Machiavel, quand il écrit Le Prince, il est censé s'adresser à un prince. Bon, en tout cas, il vit alors que le régime a changé et qu'effectivement, le régime est devenu monarchique. Et il s'adresse aussi à un public qui est en revanche un public de jeunes gens républicains. Mais quand il s'agit du prince, ce que dit Machiavel, c'est que le prince, s'il s'appuie sur ceux qui l'ont amené au pouvoir, enfin sur les grands, c'est le terme, s'il s'appuie sur les grands, eh bien, il échouera, parce qu'il n'aura jamais la liberté d'action qu'il souhaite dans ses initiatives aussi bellicistes, enfin, car le prince. Hein, et ça n'est que s'il s'appuie sur le peuple que les grands seront tenus en respect. Donc, vous parliez de ruse. D'une certaine manière, c'est une espèce de ruse qu'il prête au prince, dont le prince est dépourvu d'ailleurs.
Donc ça veut dire aussi.
L'idée, c'est d'un prince populaire, d'un prince qui n'est pas absurdement le pouvoir concrétisé d'une aristocratie, mais d'un prince qui est assez habile pour avoir une grande marge d'initiative, parce qu'il s'appuie sur les peuples, et dans ce cas-là, les grands, ils s'aplatissent, pour parler vulgairement, c'est ça. D'autre part, je vous demande pardon, mais d'autre part, il y a la République. Alors là, c'est autre chose. La République, dans la République, pour lui, le peuple n'est pas seulement, par sa résistance, un facteur positif, un facteur fécond, du régime, comme dans le prince, mais là, le peuple, en revendiquant, en s'affirmant, en étant, en accueillant, en s'augmentant à la faveur de l'immigration, etc., le peuple devient, disons, à la source d'un... Le pouvoir n'est jamais le pouvoir du peuple, que je ne prête pas à confusion. Ce n'est pas le peuple qui a le pouvoir, mais le peuple devient quand même l'élément décisif dans la détermination de la politique et de la politique extérieure aussi de la République.
Le pouvoir indirect du peuple.
Absolument. Oui. Donc la fécondité du peuple, c'est que, il le dit d'une œuvre à l'autre, il le répète, le peuple, son désir est de ne pas être opprimé, alors que le désir des grands, c'est d'opprimer. Voilà, c'est aussi radical et simple que ça, il le dit, il le répète. Donc le peuple ne veut pas être réprimé, et il faut qu'il ait ce ressort de lutter contre l'oppression.
Voilà. Donc
c'est extraordinaire. C'est quand même.
C'est une vision de l'émancipation.
C'est une vision d'émancipation complètement affranchie de l'image d'un peuple souverain.
Hein? Fondamental.
Fondamental. Donc, si nous parlons de la démocratie comme définie, nous allons probablement faire référence, définie par la souveraineté du peuple. Non, chez Machiavel, elle n'est pas la souveraineté du peuple. Chez Machiavel, il y a le conflit au départ. Et la force de progrès, c'est le peuple. Par sa pression.
Il ne faut pas que le peuple, disons, devienne un pouvoir négatif. C'est-à-dire, il ne faut pas que le peuple devienne le pouvoir qui se rebelle. Et donc, la philosophie politique à l'époque, c'est de dire que, au fond, se concilier le peuple, c'est tout simplement faire en sorte, ça n'est pas reposer sur lui, sur sa volonté, mais c'est faire en sorte qu'il consente, c'est le consentement, c'est le fait qu'il ne se rebelle pas. Donc on pourrait dire que c'est une vision...
Non, je n'accepte pas tout à fait cette formule, parce qu'il a cette idée que le peuple doit faire pression. Le peuple est actif. Oui. C'est pas qu'il est celui qui n'est pas opprimé. Il faut qu'il lutte contre l'oppression.
Bon. En langage aujourd'hui, on dirait que c'est un contre-démocrate, le peuple.
Voilà. Bon. Voilà.
Alors, puisqu'on a parlé du peuple contre-démocrate chez Machiavel et dans les...
Pas de souveraineté du peuple, mais un peuple combatif.
D'accord. Alors, la deuxième expérience des démocraties, c'est aussi celle justement de ces révolutions fondatrices, tout de même les révolutions américaines et françaises. Et là, ce ne sera pas simplement le pouvoir contre-démocratique du peuple, ce sera directement l'idée de souveraineté positive du peuple. Et cette idée de souveraineté positive du peuple, elle va trouver son institution centrale, le suffrage universel. Comment vous analysez donc ce passage du peuple contre-démocratique au peuple souverain, au peuple positif ?
La question que vous me posez là, c'est une question qui m'intéresse au plus haut point. Parce que on pourrait croire que la souveraineté du peuple, enfin l'institution du principe de la souveraineté du peuple implique l'idée ou l'image du peuple un, le peuple. Le peuple, ce n'est plus la partie basse de la société, au-dessous des grands. Le peuple, il enveloppe, hein, il englobe toutes les conditions. Bon. Mais en fait, ce peuple un, il est, par le suffrage universel, il est périodiquement interrogé pour que surgisse l'expression de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que le peuple est un, mais qu'il faut scruter, qu'il faut chaque fois revenir à lui pour savoir qu'est-ce que c'est que cet un. Or, le suffrage universel, en fait, quelle est sa fonction ? Il a pour fonction de mobiliser la société. C'est un grand moment où chacun est appelé à trouver un débouché à son opinion, mais cela dans une société qui donc connaît des associations où, je dirais, pour revenir au début, une société dans laquelle se trouve par cela même, par ce facteur même, précipiter l'association, l'organisation en parti, qui vont être autant de foyers de décision. Alors, qu'est-ce que ce peuple souverain, il nous renvoie un peuple dont on ne sait pas au départ exactement ce qu'il est. Et en plus, comme le pouvoir, attention, comme le pouvoir, je veux dire, comme le suffrage est périodique, le pouvoir d'aujourd'hui n'est pas le pouvoir de demain. Comme le peuple lui-même d'aujourd'hui, après le suffrage, il n'est pas forcément ennemi qu'il soit le peuple de demain. C'est donc très curieux, la démocratie.
D'ailleurs, dans l'iconographie de la Révolution française comme de la Révolution américaine, pour abonder dans votre sens, oui, ce qui est très frappant, c'est quand on s'est posé la question, comment représenter le peuple ?
Oui.
Comment représenter le peuple ? Et alors, ben justement, les graveurs et les peintres n'arrivaient pas à représenter le peuple. Et donc, finalement, ce qui a trouvé une forme d'accord, c'est que près du pont qui est au bout de l'île de la Cité, on avait construit en espèce de plâtre un énorme colosse sur lequel on avait mis des étiquettes peuple pour montrer que le peuple était quelque chose de massif, que c'était lui ce qui dominait la société. On avait voulu donner l'image de grandeur, mais comme cette image de grandeur n'était pas suffisante, on avait mis, on dirait aujourd'hui, des autocollants peuple. Et donc, c'est vrai que c'était une question fondamentale dans l'histoire des démocraties que de figurer ce peuple.
Mais bien sûr, car il est infigurable. Alors, c'est là que, si vous voulez, je rassemble deux thèmes. Le premier, que j'ai développé depuis très longtemps, à savoir que la démocratie était cette société dans laquelle le pouvoir n'est pas incorporé au social. C'est facile à comprendre. Le monarque, que ce soit le monarque ou que ce soit l'aristocratie, il y a comme un enracinement dans la nature entre guillemets, n'est-ce pas ?
Bon. Quelque chose de ressenti comme divin.
Voilà, voilà. Le monarque de droit divin, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme tel, mais les aristocrates, ils sont de tradition, de famille, bon. En revanche, le peuple, il est au-dessous, une couche sociale. Et puis, soudain, voilà le peuple 1. Mais ce peuple 1, si on voit de près le suffrage, comme je le disais à l'instant, il faut l'explorer pour qu'il se dévoile souverainement 1. Et l'explorer, c'est aussi le mobiliser. Les partis politiques, encore une fois, existent parce qu'il y a du suffrage universel. Bon, toutes les institutions. Bon, et à l'envers, pas à l'envers, mais d'un autre côté, le pouvoir. Ce pouvoir qui doit se remettre. Là encore, il faut faire attention. Ce gouvernement, enfin cette autorité, l'exercice du pouvoir, il doit se remettre en jeu périodiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ça, c'est un thème que j'ai développé depuis longtemps, c'est que le pouvoir n'appartient à personne. Ça a l'air.
C'est votre fameux thème du pouvoir, oui, comme lieu vide.
Mais parce que
c'est souvent, oui, c'est un lieu qui vide. Qui résume le fort, disons.
Ben, c'est un lieu vide parce que dans toute société, le pouvoir existe. C'est une référence, pas de société, même dans les sociétés primitives. Bon, enfin, je ne peux pas entrer dans le détail. Il y a un lieu du pouvoir, s'il n'est pas entre les mains des hommes, il est entre les mains de
la
Dieu.
Tradition.
Oui, pardon. Donc, le pouvoir, il ne peut pas être incarné. Et il ne peut pas, donc, il ne fait pas corps avec la société. Ce lieu, il est vide. Mais en revanche, il y a l'exercice du pouvoir, il y a ceux qui
Il y a beaucoup de candidats pour remplir le vide aussi, oui. C'est ça le problème.
Oui,
de la démocratie.
D'accord. Mais ce que je veux mettre en relation, j'espère que c'est clair, c'est que à une extrémité, on a le peuple 1 qui, en fait, pour qu'il soit 1, qui est hétéroclite, qui est multiple, bon, qui est conflictuel, c'est ça le peuple. Bon. Et d'un autre côté, on a le pouvoir qui est le pouvoir de personne. Je trouve que les deux choses sont importantes à comprendre pour saisir ce que c'est que la démocratie.
Ça, c'est la réflexion du philosophe sur la démocratie. Mais les hommes politiques qui ont été les représentants du peuple n'ont pas souvent donné la définition de Claude Lefort de la démocratie. C'était un problème historique aussi.
C'est pas leur intérêt, ce n'est pas leur
intérêt. Oui, mais même on peut dire qu'il y a toute une tradition aussi qui a cheminé vers cette idée. Si on prend même un Condorcet pendant la Révolution française, il n'est pas loin de cette idée Condorcet, qu'au fond, personne ne peut remplir le pouvoir. Et ça n'est qu'une multiplication d'occupations partielles qui peut en donner une image approchée. L'idée de Condorcet, c'est que le peuple ne se représente pas, mais qu'on peut, à la façon, vous savez, de ces images que l'on anime, donner une image approchée du peuple en superposant tout un certain nombre de ces images. Il a cette idée très forte, Condorcet. Chez un certain nombre de libéraux du XIXe siècle, on approche aussi de cette idée-là. Mais ils le voient plus comme un moyen de disqualifier l'idée de souveraineté que comme un moyen de construire la démocratie. Oui. C'est ça qui est le problème.
Moi ce que je dirais volontiers, mais ces termes appelleraient évidemment définition, c'est qu'il faut introduire une distinction entre ce qui est de l'ordre du symbolique et de l'ordre du réel. Or, le pouvoir réel, il passe de l'un à l'autre, hein, mais en revanche, il y a un pouvoir symbolique, quelle que soit, disons, l'opinion majoritaire qui envoie tel gouvernement, enfin, qui met tel individu, tel gouvernement au pouvoir, c'est un pouvoir de fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une dimension essentielle du pouvoir. C'est ça ce que j'appelle symbolique. Donc, on ne peut pas réaliser ce pouvoir. C'est pour ça que je dis plus simplement le pouvoir de personne. Et l'autre côté, ce qui est quand même très intéressant, me semble-t-il, c'est ce lien du suffrage universel à l'idée d'une fouille, en quelque sorte, d'une fouille de la société, enfin, de ce qu'on appelle le peuple, pour trouver, soi-disant, la volonté.
Dans le suffrage universel, il y a vraiment une double dimension, parce que la première dimension, c'est un peu une consécration de l'égalité. C'est de dire que toutes les voix, tous les arguments se valent, et que le sage ou le futile, celui qui a longuement réfléchi et celui qui vote sur un coup de dé ou simplement avec ses passions, tous les arguments se valent, parce que personne ne peut se faire le juge de ce que seraient les bons arguments du choix. Donc il y a cette dimension constructrice de l'égalité, pourrait-on dire, dans le suffrage universel, et d'une égalité très radicale de ce point de vue-là. Mais en même temps, le suffrage universel, il existe comme résultat, c'est-à-dire comme décompte des voix. Et autant cette dimension de l'égalité, ça construit une forme sociale, parce que dire que ce principe de l'égalité, il est constitutif d'une certaine image à la fois symbolique de la société, parce qu'elle ne gouverne pas toutes les dimensions de la société, mais fondamentale dans l'esprit de l'homme, de dire qu'il y a une équivalence radicale. Donc ça, c'est constitutif, disons, de l'égalité démocratique. Mais en même temps, le décompte des voix dans l'urne, autant l'égalité symbolique, cette équivalence radicale, elle construit une certaine idée du peuple, non pas comme une image sociale, mais comme un principe d'organisation. Alors que le décompte des urnes, eh bien, il y a 294 contre 133 et 58. Donc là, d'un certain point de vue, à chaque fois qu'est formulé un résultat, apparaît, je dirais, la cacophonie du peuple, ou sa division, ou son caractère problématique.
Oui, mais ce qu'il y a, parce que j'essayais de formuler, en effet, c'est le nombre. Mais ça ne veut pas dire pour autant, comme par exemple, on pourrait le faire dans la perspective de Tocqueville, que c'est on compte les individus. Non, c'est plus compliqué que ça. En effet, il y a le nombre, mais en même temps, comme je reprends cette image, en même temps, c'est soudain un révélateur de la pluralité du social. C'est ça le suffrage. Mobilisation. Donc, en réalité, les gens ils votent soit en effet parce que le cœur les porte d'un côté, parce qu'ils pensent que c'est à droite ou à gauche, ou ils pensent qu'il est vraiment sympathique, ce petit bonhomme, s'il l'est, soit-il. Mais il y a autre chose. Les opinions sont déjà, pour une part, ce sont des foyers. Nous connaissons. Il y a des syndicats, il y a des partis, il y a des associations, il y a du voisinage, etc. Et donc, c'est tout ça qui, à un moment donné, se trouve émergé, enfin.
Ça, c'est très fort et c'est très clair, mais en même temps, on a mis un certain temps pour arriver à cette idée. C'est-à-dire l'idée que le suffrage est le révélateur de la diversité ou de la division, pendant très longtemps, on a pensé que la bonne démocratie serait celle qui exprimerait, grosso modo, l'unité du peuple. Et dans de nombreux villages, on voit jusqu'à la fin du Second Empire, des villages qui votent presque à l'unanimité. Oui. Comme si l'expression d'une voix dissidente ou l'existence de groupes concurrents, voire divisés, était une sorte d'agression oui. contre le corps social lui-même.
Oui, mais dans le même... C'est vrai dans le milieu agricole, mais... Dans le même temps, se forment des partis politiques, se forme une division sociale. Il y a le mouvement ouvrier, le prolétariat. Il y a des groupements qui sont quand même assez clairement, disons, de la bourgeoisie, etc. Bon, c'est autre chose, ça. Vous voyez ? Et c'est ça que le suffrage vient, encore une fois, vient...
Vous avez raison sur ce point. On peut dire que l'idéal d'unanimité était très présent dans les communautés rurales. Territoriales traditionnelles, ouais. mais très peu présent dans les villes. Ça, c'est, la ville a toujours été, je dirais, le lieu où la division était un fait, voire un fait accepté. Oui. Alors que la campagne a longtemps été un espace dans lequel, effectivement, oui. d'où on retourne à la ville.
D'où on retourne à la
ville. Alors, repartons pour avancer de l'idée fondamentale du lieu vide, et est-ce qu'on ne peut pas penser, je crois que c'était le sens de votre démarche, de conceptualiser le fait totalitaire à partir justement de ce rapport au lieu vide. Le totalitarisme, de conceptualiser le totalitarisme à partir de cette notion de lieu vide. Le totalitarisme apparaissant d'une certaine façon comme une tentative forcée, voire forcenée, pour remplir, saturer ce lieu vide. Est-ce que vous pourriez résumer un petit peu le cheminement qu'a eu cette idée chez vous ? Comment elle s'est constituée ?
Ah, si c'est chez moi, c'est très facile. Je croyais que vous parliez d'un cheminement dans l'histoire.
Ah, non. L'histoire, c'est le fort, ce soir.
C'est plus difficile. En ce qui me concerne, je peux répondre aisément, parce que dans ma jeunesse, ou ma prime jeunesse, j'ai été marxiste, j'ai découvert Marx quand j'avais 18 ans, la lutte de classe, le prolétariat, j'étais ébloui, ça a duré un certain temps, mais en revanche, je me suis engagé dans un parti d'extrême gauche, c'est-à-dire trotskiste, la descendance de Trotsky, l'ennemi de Staline, éliminé comme Lénine d'ailleurs l'avait été, et donc c'est à partir de là que radicalement anti trotskiste marxiste, radicalement anticommuniste, c'est à partir de là que j'ai découvert peu à peu, enfin que je suis passionné pour la nature, m'interroger sur la nature de ce nouveau régime qui était le totalitarisme. Et donc, je dois dire tout de suite que j'ai écrit un livre en 81 qui s'appelle « L'invention démocratique », mais comme par hasard, il y a un seul essai, ce sont des essais, il y a un seul essai sur la démocratie, bon, important, et des autres essais, c'est sur le totalitarisme. Parce que c'est le totalitarisme qui, au départ, a été, moi, jeune marxiste, me détachant... Encore une fois, du PC, bien sûr, c'était l'énigme. Voilà. Et le totalitarisme m'a... j'ai compris que ce régime n'était pas comme on le croyait successivement. Alors, les trotskistes, c'était des communistes qui considéraient que c'était un État ouvrier dégénéré.
Capitalisme d'État aussi.
Non, attention, pas encore. Alors, j'étais quand même pas complètement abruti, et je trouvais que l'activité des trotskistes, qui était en somme marxiste, en même temps, c'était la défense. C'est d'une autre génération, mais il y avait comme grand principe la défense inconditionnelle de l'Union soviétique. Défense inconditionnelle parce qu'il y a des bonnes structures, c'est-à-dire le capitalisme a été aboli, la propriété a été abolie, et donc il y a une mauvaise superstructure. Ce qu'on appelle superstructure, c'était Staline, le stalinisme, le parti, la superstructure. Alors ça, j'ai quand même été assez vif pour comprendre assez rapidement que c'était absurde. Ensuite, j'ai rencontré, certains d'entre vous connaissent son nom, certainement Castoriadis, qui lui avait une idée, qui comme moi était absolument critique vis-à-vis de l'Union soviétique, mais qui avait une idée, c'est que l'Union soviétique, c'était le capitalisme d'État. Alors, que je vous explique, je n'ai pas besoin d'expliquer d'ailleurs. Nous vivons dans le capitalisme privé, reposant sur la propriété privée, et Castoriadis, qui d'ailleurs représentait déjà, comment dirais-je, un courant qui avait existé auparavant.
Il était 34 dans le
courant. Oui, oui. C'était qu'il fallait comprendre que là, nous étions toujours, en somme, dans l'analyse marxiste, le capitalisme étant l'ennemi, mais que c'était un. Les moyens de production, pour parler tout simplement, les moyens de production avaient été accaparés par l'État. Donc, c'est plus la bourgeoisie, c'est plus la classe, la bourgeoisie, le prolétariat, c'est l'État et puis la société qui exécute. Bon, j'ai mis quelques temps, mais pas longtemps, à trouver que c'était absurde, qu'on ne pouvait pas réduire le système qui régnait, le système de pouvoir en URSS, à, disons, au capitalisme d'État. Que c'était, qu'en fait, la grande nouveauté, c'était la capacité du pouvoir à travers le parti, un parti unique. Je dis un parti unique, on a dit tellement de choses banales ensuite sur les régimes de parti unique. C'est beaucoup plus qu'un parti unique. C'était un parti qui avait des tentacules dans toute la, disons, dans, si on peut dire, le corps social, c'est un parti présent partout, omniprésent. Bon. C'est donc le pouvoir de Staline qui, à la fois, est détaché, et on sait à quel point, d'ailleurs, on sait à quel point Staline, en tant qu'individu, a été important, d'ailleurs. Mais ce pouvoir, en même temps, il suit tous les canaux de la société. Allusion que nous faisions à Kravchenko tout à l'heure, le livre de Kravchenko publié en 1948, un livre qui s'intitule « J'ai choisi la liberté », livre qui aussitôt qui excite, disons, l'indignation de la gauche, de la grande majorité de la gauche, y compris de la gauche intellectuelle, y compris de gens qui me sont très proches. Merleau-Ponty me permet d'écrire dans les temps modernes, en 1948, un article dans lequel je dis que Kravchenko est un livre extraordinaire et révélateur et magnifique, mais il le fait suivre d'une note disant que c'est la vie personnelle de Claude Lefort. Quant à Sartre, à l'époque, la politique, ça n'existe pas, il ne sait pas ce que c'est. Bon. Mais enfin, je dis ça parce que Kravchenko a excité dans la gauche. Or, ce livre est passionnant. je conseille d'ailleurs de le lire même maintenant, parce que j'ai eu l'occasion de le dire récemment, ça n'est pas du tout une critique théorique de ce que c'est que le régime soviétique, c'est son histoire propre, fils d'ouvrier, doué, donc montant dans la hiérarchie sociale, parce qu'il faut, il faut laisser ça à ce régime, c'est pas parce qu'on est un fils d'eux qu'on donc très intelligent, donc il monte, il devient quelqu'un d'important, il devient un ingénieur, et puis il est dans un monde où ses meilleurs amis... c'est un monde de la délation. Non seulement le parti est partout, mais l'espionnage est partout. Donc sans parler de ce qu'on connaissait, de ce que vous pouvez connaître encore maintenant, si vous lisez des histoires qui montrent ce qu'ont été les grandes purges en 1930, où la paysannerie, par centaines de milliers d'hommes, a été exterminée. La terreur rouge a été une des choses fabuleuses. Bon, il y a aujourd'hui, une littérature abondante là-dessus, ce qui n'empêche pas des imbéciles qui ne la lisent pas de continuer à penser qu'autrefois, il y avait un communiste qui... Peu importe. Mais ce que je veux expliquer, c'est que ce parti n'est pas seulement un parti qui, d'en haut, donne des ordres d'exécution. Il y a des millions de gens qui ont été exécutés. Bon. Mais qu'il réussit à travers... On ne peut même pas dire, bien sûr, des professionnels d'espionnage, mais c'est plus que ça. C'est une société pourrie. C'est-à-dire où on risque... parce que tel vous déteste, tel vous jalouse, simplement pour se faire bien voir, ou on risque d'être soudain considéré comme un anticommuniste, un ennemi du peuple. Alors, vous savez quand même si vous n'avez pas une connaissance de l'histoire, vous savez quand même que les camps de concentration, disons, en Union soviétique, ont été peuplés par des millions d'hommes. Eh bien, ces millions, pour beaucoup, c'était des gens qui n'avaient rien fait que de dire des mots qu'il ne fallait pas dire, voire simplement d'être éliminés parce que dans une boîte, aujourd'hui, ça existe toujours partout, disons qu'il y a des jalousies, qu'on peut dénoncer quelqu'un, mais que là-bas, la délation est un phénomène courant. Donc, les camps de concentration qui ont connu des millions d'hommes, il faut comprendre que ces gens, dans leur immense majorité, étaient des innocents purs et simples. Bon. Alors, c'est ça.
En même temps, votre analyse du totalitarisme insiste sur le fait que ce pouvoir oppressant, ce pouvoir destructeur qui est partout, il est à la fois un pouvoir société qui s'impose sur la société, mais qui se nourrit aussi, pour une part, d'une sorte de consentement de certains.
Bien sûr.
Donc c'est ça, c'est à la fois un pouvoir extérieur et intérieur.
Oui,
il tient en tenaille de ce point de vue-là.
Vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas omettre en même temps d'acquiescement, de complicité aussi qui se trouve dans une population. Mais c'est quelque chose de terrible de dire ça. Bien que ce soit vrai, parce que ça veut dire que cette population, elle est pourrie, pour une bonne part. C'est pas seulement qu'elle est faite de gens, de délateurs, qu'elle est faite de gens passifs, et aussi d'un respect, au fond, qui se trouve aussi dans d'autres situations, d'un respect pour le pouvoir.
Une société radicalement, justement, qui n'est pas comme ces sociétés dont vous parliez. Elle n'a pas connu cette égalité des conditions.
Non.
C'est une société radicalement non démocratique, en tant que forme sociale.
Mais oui.
Pour avancer un peu dans la discussion, vos analyses du totalitarisme que vous avez développées à partir de la fin des années 40 ont connu un moment en quelque sorte de visibilité au début des années 70, au moment où la question du totalitarisme est devenue plus publique avec la publication de Soljenitsyne.
son archipel du goulag. Et un de vos livres marquants des années 70, c'était un livre qui a pour titre « Un homme en trop », qui est un commentaire sur l'archipel du goulag. Et à ce moment-là, votre travail, nous allons être un certain nombre à le lire, à s'en nourrir, et votre travail va être en quelque sorte l'œuvre philosophique de référence pour alimenter ce qu'on a appelé la gauche antitotalitaire. Comment, dans cette période-là, avez-vous compris cette espèce d'extraordinaire réticence qu'a eu la gauche, je dirais, classique, communiste bien sûr, mais pas simplement communiste? Vous avez écrit de nombreux articles sur le sujet, cette réticence à reconnaître et à accepter le fait totalitaire, à définir, si je puis dire, un socialisme démocratique antitotalitaire, parce que ce combat, il a été très difficile. Cette réticence à avoir accepté ces analyses du totalitarisme, elles ont été puissantes. On a même vu un moment où des personnalités, pourtant qu'on pouvait penser d'un socialisme modéré, s'emportaient un petit peu contre Solzhenitsyn. Comment avez-vous vécu cela et comment l'avez-vous interprété ?
Comment je l'ai vécu, c'est... Comment dire, la lecture de Solzhenitsyn m'a passionné et je n'ai pas eu le moindre doute sur la véracité de son récit. Là encore, c'est très différent de Kravchenko, puisque Kravchenko était un fonctionnaire soviétique, ce qui n'est pas du tout le cas de Solzhenitsyn, mais Solzhenitsyn avait été en camp de concentration. Et son témoignage était indiscutable. Or, même à cette époque-là, quand Solzhenitsyn ?
73.
Oui. Je crois que c'était même plus tard.
Ah, oui. Parce que quelqu'un non. Pense que c'est 73, l'archipel.
Oui. Même en 73, disons, une bonne partie de la gauche considère que Solzhenitsyn, il a un côté, comment dirais-je, c'est un homme religieux, et que ce qui voilà que c'est un conservateur et en plus un idéaliste. Non, c'est très très étrange la résistance à cette époque-là à Solzhenitsyn.
Mais cette étrangeté, comment vous l'analysez? Étrange, oui, c'est clair, c'est étrange.
Comment l'analysez-vous? Quelle est la raison de cette résistance?
Il y a encore un parti communiste, d'abord, qui est très puissant à cette époque-là. Il y a un parti socialiste qui est fait alliance avec le parti communiste. Les socialistes n'ont jamais rien compris aux communistes.
Pourtant, ils ont été antisoviétiques.
Ils ont été antisoviétiques, mais enfin, aussi bien, ils se sont fait avoir en 1936... Ils ont été trahis par les communistes en 1936, alors qu'il y avait un immense élan dans la population d'égalitarisme, etc., etc. Ils n'ont rien appris. Mitterrand s'est allié a trouvé encore le moyen de s'allier avec les communistes. Il ne comprenait pas ce que c'était que l'URSS.
Oui, même Mitterrand, au moment où vous publiez Un homme en trop, visiter la Hongrie en s'émerveillant des succès du régime.
Oui, je l'avais accroché
Vous avez fait un article célèbre, justement, sur cette question-là.
Oui, alors qu'en Hongrie, les gens étaient...
Pour ma génération, votre travail a été en quelque sorte organisé autour de deux points. D'abord, bien sûr, cette analyse du totalitarisme et... l'importance de cette analyse, non pas simplement pour critiquer un régime donné, mais pour repenser à neuf la démocratie. Parce que c'est tout de même cela, la force de votre analyse, c'est que vous n'avez pas simplement, je dirais, celui qui dénonçait le totalitarisme. Vous avez été celui qui pensait que la dénonciation et la compréhension, d'abord plus que la compréhension du totalitarisme, était la condition d'un approfondissement démocratique. Et que la démocratie ne pouvait se développer que si on comprenait ce qui avait été les ressorts, je dirais, de ces pires négations ou de ces pathologies.
Oui, très certainement, parce que redécouvrir la démocratie, pour moi, ça ne veut pas un instant dire minimiser les inégalités, faire idéaliser la démocratie, c'est c'est prendre conscience que nous sommes dans une société dans laquelle nous connaissons des possibilités de développement, dans lesquelles il y a une mobilité sociale et qui continue d'ailleurs, en dépit du chômage. J'ai eu très récemment des exemples qui personnellement m'ont bouleversé, parce que je ne suis pas seulement un théoricien, de plusieurs cas de gens très très remarquables qui que je croyais des bourgeois, hein, et qui en fait avaient des origines les plus modestes qui soient, ouvrières, etc. Donc la démocratie, il faut la voir comme ce milieu de conflits, ces inégalités, un milieu dans lequel il faut savoir contester, il faut savoir justement, vous êtes aujourd'hui à la pointe d'association, de l'idée d'association et d'association contre les inégalités notamment. C'est absolument essentiel. Mais quelles que soient les critiques, elles sont vives, nous ne pouvons nous détacher de ce régime pour en faire un régime parmi d'autres. Ou bien la démocratie, on arrivera à la transformer de l'intérieur grâce, encore une fois, quelquefois, il y a des mobilisations spontanées, ou bien elle dépérira. Et ça, c'est un autre volet sur lequel il est trop tard pour que j'en parle, mais le fait est qu'on peut craindre, depuis un certain temps, que... Il n'y a plus de grands conflits sociaux. Il y a des inégalités, mais le conflit social, c'est pas que j'étais communiste prolétarien, vous voyez, pas du tout, mais la polarisation de la société était importante pour sa vitalité. Or, maintenant, la société industrielle s'est transformée, le capitalisme existe toujours, mais il n'y a pas, pour ainsi dire, d'un côté, ce qu'on pourrait circonscrire comme l'agent maléfique de l'inégalité. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça.
Ils ne sont pas personnalisables de la même façon. Quand on a parlé beaucoup dans cette journée, dans l'atelier sur le capitalisme, transformation du capitalisme et démocratie, tous les mécanismes justement de développement de l'économie financière, de titrisation, ça n'est pas simplement un groupe social, c'est un mécanisme, pourrait-on dire, d'abstractisation qui a servi la société, qui coupe l'économie de la société et qui produit les inégalités dramatiques que l'on sait. Donc le mode de production des inégalités a aussi changé de nature. Et on peut dire que le sentiment de l'oppression ou le sentiment de l'exploitation a également changé de nature, parce qu'il s'exprime de plus en plus dans ce qu'on voit aujourd'hui en France à beaucoup d'endroits, y compris à Grenoble aujourd'hui, dans des communautés d'épreuves, donc dans ces moments forts particuliers. Il s'éprouve aussi dans le sens de partager des trajectoires, beaucoup plus simplement que dans une appartenance générale, routinière et quotidienne à ce qui s'appellerait la classe ouvrière. Cette notion, elle s'incarne dans des moments, dans des expériences, dans des formes de trajectoires, dans des similarités d'histoire,
dans des solidarités.
Donc elle prend des visages aussi et des formes différentes.
Très différentes. Ce qui est très positif en un sens.
Exactement.
Mais en un autre sens, on peut craindre, disons, à une certaine démobilisation sociale qui est peut-être pour une part due au même phénomène. Et un effritement des oppositions, donc des enjeux. Un mot de plus, qui n'est pas insignifiant pour moi. On peut craindre un pouvoir qui endort la société, un pouvoir qui ne consulte pas et qui réforme dans différents milieux, que ce soit l'éducation, que ce soit la magistrature, que ce soit... Bon, sans qu'il y ait mobilisation là, des intéressés. On peut croire à une société qui se laisse modeler par une autorité qui, auparavant, était impensable.
Ce chemin, effectivement, on le voit tout à fait, mais est-ce que nous, si je puis dire, nous collectifs, producteurs d'idées, nous intellectuels, nous n'avons pas une responsabilité, parce que il faut justement rendre plus visible, plus sensible ces problèmes et ces mécanismes, car lié à des phénomènes de passivité, il y a aussi le sentiment de ne plus avoir prise sur la réalité, un sentiment d'opacité, un sentiment de ne plus comprendre, un sentiment de déprise sur le monde.
Ce chômage qui...
Mais ça veut dire que comprendre le monde, c'est déjà, d'un certain point de vue, commencer à le transformer. Dire que ce rapport entre l'interprétation et l'action, vous le savez bien, c'est un thème que nous n'avons inventé ni l'un ni l'autre, et qui est un des grands topos classiques du marxisme. Donc vous plaidez pour que nous revenions au marxisme, Claude.
Ça, c'est la mauvaise foi, là. Non. Notez, pour moi, Marx reste
Dans la mesure où je donnais une définition, je dirais, maximalement sympathique du marxisme.
Oui.
À savoir l'effort radical de compréhension et de la critique sociale. Alors à ce moment-là...
L'égalité sociale...
À ce moment-là, ça va.
Sans réserve.
Très bien. Une dernière chose pour conclure cette conversation. Et je dis, avant de la conclure, une chose. Il se trouve que cette semaine, Claude Lefort a été l'invité, non pas l'invité cette semaine, parce que c'est enregistré il y a près d'un an, m'a-t-il dit, une série d'émissions qui passent tous les soirs à 20h sur France Culture, dans l'émission À Voix Nue, qui a commencé lundi et qui se termine ce soir à 20h. Donc on aura tous du mal à l'écouter à 20h, sauf à se précipiter dans les voitures. Claude ne le savait pas, que ça passe à la radio. Mais comme toujours sur France Culture, tout est podcastable. Donc ceux d'entre vous qui voudront poursuivre la conversation et la réflexion avec Claude Lefort pourront non seulement regarder ses livres qui sont à la librairie, mais aussi podcaster ses émissions. Je voudrais, Claude, terminer par une dernière question. Pour ma génération, vous avez été le philosophe de l'antitotalitarisme, mais vous avez été aussi le philosophe très, très actif, très, très lié au mouvement en mai 68. Et dans ce mouvement de mai 68, on ne va pas vous demander de raconter tous vos souvenirs, même s'il y en a beaucoup, mais dans cette période de mai 68, il y a une dimension fondamentale, c'est tout de même une certaine idée utopique au sens positif du terme, c'est-à-dire tout simplement l'idée qu'on peut penser autrement, l'idée que d'autres possibles peuvent être ouverts, je dirais en donnant cette définition non pas de l'utopie modèle, mais de l'utopie ouverture des possibles. Souvent, il m'a semblé chez vous que vous regrettiez, d'une certaine façon, que toute une critique, je puis dire, du marxisme, une critique du communisme, ait conduit, d'une certaine façon, chez certains, à se contenter, je dirais, d'un libéralisme prudentiel et à oublier un petit peu cette dimension.
C'est-à-dire
l'ouverture des possibles.
C'est-à-dire que 68 a été une année extraordinaire parce que elle a vu une mobilisation dont l'origine, comme vous le savez, était les étudiants, une mobilisation collective dont on n'avait pas d'exemple. Bon, alors je dis au passage que je suis surpris de chaque fois qu'on reparle de 68, surtout au moment d'anniversaire, on présente 68 sous un jour ridicule ou du moins comme un moment de faiblesse, etc. En fait, ce qu'il y a eu d'extraordinaire en 68, moi j'étais professeur à l'université de Caen. Et j'ai eu l'occasion de le raconter. Caen a démarré, si j'ose dire, et notamment mes étudiants, la veille au soir du jour où ça s'est déclaré à Nanterre. Bon. Il y avait une telle exigence de communication. J'aime pas beaucoup ce terme. Ils parlaient. Je reviens à mon cas personnel. Je suis professeur. Bon, je parle. Fais mon cours. Je vais m'apercevoir d'ailleurs que Précisément cette année-là, j'avais très bons élèves. Mais vous avez quelque chose à dire ? 68. L'explosion de la parole. Excusez-moi de prendre peut-être par un très petit bout, sinon 68, du moins mon rapport à 68. Mais de voir soudain cette libération de la parole, souvent vaine, pour dire souvent des choses dont, en soi, c'était, je continue de le penser, un événement extraordinaire. C'était justement un nouveau mode de socialisation sauvage, qui ne pouvait pas durer. Je n'ai jamais mis d'espoir dans une révolution en 68, comme des imbéciles m'ont prêté cette idée. Jamais, pas un instant. Mais en revanche, je me suis, disons, à l'époque, heureusement pas brouillé, mais disons, opposé à Raymond Aron, qui considérait qu'il y avait une sorte d'atteinte à l'intégrité de l'université et en même temps, c'est vrai, aux adultes, disons, de façon générale, enfin aux adultes, aux pères, bon, tout était mis en question. Mais à travers cette démocratie sauvage, il y avait une espèce de liberté qui, pour moi, je le confesse, a été extrêmement, extrêmement précieuse. Voilà. Et on caricature aujourd'hui 68, soit quand on dit que c'était les communistes, alors qu'ils n'ont joué aucun rôle, qu'ils ont essayé de rattraper comme ils pouvaient le mouvement jeunesse communiste, soit que c'était, disons, anarchiste, alors qu'il n'y avait pas de doctrine. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il n'y avait pas de doctrine, et que c'était un curieux mouvement qui, d'un seul coup, faisait craquer les rapports traditionnels d'autorité, de hiérarchie, sans pour autant, bien sûr, qu'il puisse y avoir derrière l'idée, certains avaient des fantasmes, mais l'idée, prenez Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, qui a été un leader étudiant à l'époque, vous le disiez aujourd'hui, vous voyez que c'est quelqu'un qui, disons, quoi qu'on pense de ce qu'ils disent, d'extrêmement intelligent, d'extrêmement perspicace dans ses analyses, etc. Il y a des gens qui sont sortis de 68, qui étaient des animateurs, qui sont revenus. Enfin, 68, ce n'est pas la caricature qu'on en fait, ce n'est pas simplement le désordre.
Bon, eh bien, écoutez, continuons avec vous à prendre la liberté.